Résonance rocheuse. Résonance. Résonance rocheuse. Avec Laurence Martin, artiste sculptrice fondatrice de la ferme de Tétis. Pier Paolo Brenna, conservateur à la réserve nationale de Ristola-Montviso. Et Julien Godefroy, géologue et géomorphologue à l'ONF. À la découverte des roches des Hautes-Alpes et leurs secrets. Création d'Aline Claire, dans le cadre du projet Épilogue porté par Bienvenue là-haut. Diffusion tous les lundis à 18h.
Donc voici les panneaux pédagogiques pour expliquer la formation des montagnes, la formation des trois grandes familles de roches. Et on va se faire un petit viron au centre de la Terre. On y va? Allez, on va commencer par un petit voyage au centre de la Terre. Parce qu'on est là toujours à se promener à la surface, là, et jamais on pense à ce qui peut se passer sous nos pieds. Donc on va un peu aller voir ce qui se passe jusqu'au centre de la Terre. Voici une portion de terre, comme le serait une portion d'orange, où on peut distinguer la terre et sa structure, comment elle est faite à l'intérieur. Donc ici, nous avons la surface avec des continents, des océans. Ok, on va se mettre un repère de température à 0 degré à la surface et on va commencer notre voyage au centre de la Terre. Nous commençons à descendre, comme je l'ai déjà dit, à 80 km de profondeur. On est déjà à 1000 degrés de température. Bien. Continuons notre descente. On descend. On est à 2000 degrés de température. 4000, 5000. Au centre de la Terre, on est à 6000 degrés de température. Ce qui n'est vraiment pas rien. Et alors, le centre de la Terre, plus exactement la graine, eh bien, c'est le seul endroit de la structure de la Terre qui soit solide. C'est une gigantesque boule de métal solide, un alliage de fer et de nickel. Il y aurait quelques présences de soufre et deux ou trois autres présences infimes d'autres éléments chimiques dont j'ai oublié les noms, je ne sais plus lesquels c'est. Donc fer et nickel, le centre de la Terre, la graine, c'est une boule solide. Cette boule, elle est de métal solide, elle est à 6000 degrés de température. Tout le monde a entendu dire que la Terre se refroidissait. Donc là, 6000 degrés de température, notre graine, elle va évacuer de la chaleur dans une autre partie de la structure de la Terre que l'on appelle le noyau externe. Le noyau externe, ici, représenté en rouge. Ce noyau externe est constitué des mêmes éléments que la graine, c'est-à-dire du fer et du nickel, mais cette fois-ci liquide. Cette chaleur qui part de la graine et qui se diffuse dans le noyau externe va créer des mouvements à l'intérieur de cette substance fluide, en fait, hein, de fer et de nickel du noyau externe. Ça va créer des mouvements qui vont permettre l'apparition du champ magnétique. Alors, ce champ magnétique, il se forme ici, donc dans le noyau externe. Et sans le champ magnétique, nous n'aurions pas le bouclier magnétique qui nous protège des tempêtes solaires. On a entendu parler de ça récemment avec les aurores boréales qui se sont promenées jusque dans le centre de la France et même plus bas. Eh bien, c'est qu'il y a eu un petit souci, hein. Il y a eu quand même des tempêtes solaires extrêmement fortes qui ont réussi à traverser le bouclier du champ magnétique. Et en fait, ça craint, quoi, hein, parce que si on n'avait pas de bouclier dans l'espace qui nous protège des tempêtes solaires, il n'y aurait aucune vie possible sur Terre. Paraît-il, dernière découverte scientifique, c'est la NASA qui a présenté ça, ils sont allés faire promener un robot Persévérance sur Mars. Et sur Mars, alors ça c'est un scoop aussi, ils ont trouvé du quartz. Mais le quartz, comment est-ce possible de trouver du quartz sur Mars ? Parce que le quartz, c'est le dernier stade d'évolution, on va dire, de la silice. Et pour que ça devienne du quartz, il faut impérativement de l'eau. Donc là, c'est dingue, quoi, hein, parce que d'après les scientifiques, Mars, on voit les images hein, de Persévérance, et on voit Mars vu d'un peu haut, et on voit toute la zone que Persévérance a visitée, et on peut distinguer d'anciens fleuves, on peut distinguer des océans. Donc Mars, vous pouvez imaginer, il n'y a pas de problème, vous pouvez imaginer Mars comme la Terre. Mars était une planète tectonique, avec des plaques tectoniques, puisqu'il y a des montagnes. Il y avait aussi de l'eau, non mais ça c'est pas, ça fait pas rêver ça ? Et alors, Mars est plus petite que la Terre, et d'après ce que j'ai vu là, ce serait que Mars aurait perdu son champ magnétique, son bouclier protecteur, qui aurait fait que ça se soit arrêté. Là, on était avec notre graine au centre de la Terre, qui est une boule solide, avec notre noyau externe, donc dans lequel la chaleur de la graine va se diffuser et permettre la création du champ magnétique. Ce champ magnétique, avec mon doigt, je vais faire le chemin d'une onde magnétique. Ça part d'ici, ça traverse tout le ventre de la Terre, ça sort dans l'atmosphère, ça va dans l'espace et ça revient d'où c'est parti. Et nous avons des milliers, des milliers, des milliards d'ondes magnétiques comme ça qui nous protègent des tempêtes solaires. Et c'est pour ça qu'il y a la vie sur Terre. On va recommencer à monter dans notre structure de la Terre. Donc on a vu la graine, on a vu le noyau externe. Le noyau externe, la température c'est entre 4000 et 5000 degrés. Le noyau externe, donc fer et nickel liquide. Là, la chaleur, elle va continuer à se dégager. Et donc, on va arriver dans une autre zone de la structure de la Terre qui s'appelle l'asténosphère. C'est le manteau inférieur de la Terre, synonyme asténosphère. Dans cet endroit-là, donc, le noyau externe va balancer de la chaleur. Cette chaleur, ben pareil que la graine dans le noyau externe, la chaleur que le noyau externe balance dans l'asténosphère va créer des mouvements de convection. Là, c'est représenté avec des flèches blanches. On voit que dans le ventre de la Terre, ça brasse comme dans le tambour d'une machine à laver. Et nous, on est là à la surface et jamais on pense à tout ça. Si je me souviens bien, les convections, évidemment, ça dépend des endroits de la Terre. C'est à peu près de 1 à 3 cm par an que ça bouge, hein, les convections à l'intérieur de la sténosphère. Quand on est sur le plancher de la sténosphère, c'est-à-dire juste à la frontière entre le noyau externe et la sténosphère. Quand on est sur le plancher de la sténosphère, c'est ici que l'on trouve du magma. Pourquoi ? Ben parce que là, on est à 4000 degrés de température. Ce magma, eh bien, il comprend tous les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev sans exception. Ça veut dire donc qu'on trouve aussi de l'hydrogène et de l'oxygène à cet endroit-là. Les éléments de l'eau sont présents dans le magma, on est bien d'accord. Donc là, on est sur le plancher de la sténosphère et c'est liquide. Donc en fait, on va continuer de remonter jusqu'à la surface et plus on va remonter, bien sûr, plus on va perdre en température et plus les roches qui sont là vont se rigidifier. Dans toute cette zone donc, de la sténosphère, on va avoir des mouvements de convection. Ça bouge donc hein, de 1 à 3 cm par an, ça brasse. Et c'est donc ces mouvements de convection qui vont permettre que bougent les plaques tectoniques à la surface. Parce qu'un mouvement de convection, ça a un sens et que ça pousse sur les plaques tectoniques à la surface. On continue de monter, donc là on a des roches dans la sténosphère de plus en plus dures. Et puis on va arriver à un autre endroit. Tout à l'heure la sténosphère c'était le manteau inférieur. Là on est sur le manteau supérieur. Je l'ai peint en vert parce que c'est dans le manteau supérieur que l'on trouve les ophiolites. Donc toutes les roches vertes. plus on va monter et ça va se rigidifier là. Là, sur les croûtes continentales, on va être à un moment donné dans des matières qui seront plus plastiques jusqu'à rigides. Plus on monte et plus ça se durcit en fait. Quand on regarde les croûtes océaniques, je les ai peintes en violet là parce qu'en fait elles sont toutes constituées de la grande famille des roches magmatiques puisque les croûtes océaniques se forment grâce aux volcans sous-marins. On a vu que la chaleur remontait là et les convections, elles poussent. Vous voyez là le volcan sous-marin qui est ici ? Eh bien, le magma qui alimente la dorsale, donc le volcan sous-marin là, entre les deux continents, eh bien ce magma, eh bien, il ne vient pas du plancher de la sténosphère. C'est un autre magma. Il y a donc plusieurs possibilités que du magma se forme. Là, il se forme parce qu'on a une croûte océanique et un continent, là, de ce côté. De l'autre côté du volcan sous-marin, on a une croûte océanique et un continent. Et en fait, tous les volcans sous-marins, c'est toujours les frontières entre des plaques tectoniques. Il y a toujours des volcans sous-marins entre les plaques tectoniques. Et à ces endroits-là, eh bien, la pression qui se joue entre les deux plaques tectoniques, elle est gigantesque. Si vous vous frottez les mains, là, comme là je fais, là, on fait de la pression, qu'est-ce qui se passe dans les mains ? Ben, ça fait monter de la chaleur, les mains, elles deviennent chaudes. Eh ben, c'est le même principe. Ici, on a les deux plaques tectoniques de chaque côté, avec le volcan sous-marin, avec la croûte océanique, là, et dessous, eh ben, c'est toutes les frictions. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres éléments qui interviennent. Mais bon, entre autres celui-là, hein, la friction entre les plaques là, permet l'apparition de magma qui alimente le volcan sous-marin. Le volcan sous-marin étant alimenté de magma, les laves vont sortir dans l'eau et ça va permettre d'agrandir les croûtes océaniques. Et ça bouge tout ça. Voilà. Là, il y a le magma à la base de la sténosphère à cause de la chaleur du noyau externe. Ok. Ça, il faut quand même que je le dise. Ici, c'est liquide, très très liquide. On est à 4000 degrés de température. Ce magma, il n'est pas du tout content d'être là parce qu'il est liquide. Et un liquide, on ne l'enferme pas comme ça, c'est pas possible. Il va subir la poussée d'Archimède. Lui, ce qu'il veut, le magma, c'est... Il veut aller à l'air, quoi. Il veut sortir. Hein. Donc, depuis le plancher de la sténosphère, ce magma qui est là, il va partir, entre guillemets, comme une fusée dans le temps géologique. Ça peut mettre 1 million, 2 millions, 10 millions d'années pour monter. Mais par rapport au temps géologique, c'est rien du tout 1 million d'années. Donc ça va vite, il y a des cheminées magmatiques qui vont traverser tout le manteau inférieur. Il y en a qui sont tellement avides d'aller à la surface et qui y parviennent, il n'y a pas d'embûche qui les gêne. Donc la cheminée magmatique, elle va tout traverser. Là, dans ce cas-là, elle va casser la croûte océanique et pof, elle va nous faire apparaître une île. Au Japon, il y a des îles qui disparaissent et d'autres qui apparaissent, par exemple, de cette façon-là.
Vous venez d'écouter Résonance Rocheuse par Aline Claire.